Radioscoping.
Georges Perec.
Jacques Chancel. Georges Perec, romancier, écrivain, il faudrait dire plutôt des romans, de la poésie, des essais, des traductions, des films, des scénarii, enfin un peu de tout, un prix Renaudot aussi, en 1965 avec Les Choses. Et on finit par oublier que vous avez un métier. Vous n'êtes pas écrivain, vous êtes sociologue.
Non, non, pas du tout. Non, je suis documentaliste.
Documentaliste, alors
Oui, mais c'est faut bien gagner sa vie. Et je fais ce métier depuis 20 ans. Et c'est un métier pour moi, avait le grand avantage de me laisser un peu le temps de travailler. Et puis de me sortir un peu de l'écriture. C'est pas un métier en relation avec mes préoccupations, disons, littéraires ou mon travail d'écriture. C'est un métier de la documentation scientifique en physiologie du système nerveux. Et pendant 20 ans, enfin presque 20 ans, pendant 18 ans, j'ai essayé d'accomplir de front ces deux activités. Le problème, c'est que quand je suis arrivé dans ce métier, j'avais affaire à une vingtaine de revues, et qu'à cause de l'explosion documentaire et du fameux publish or perish, maintenant il y en
français,
a
c'est...
publier ou mourir.
D'accord.
Pour les scientifiques, pour avoir des crédits. maintenant, il y a quelque chose comme 86 ou 90 revues, certaines qui ont 500 pages chaque semaine, et que j'étais de moins en moins capable
de
traiter cet afflux d'informations. Alors,
mais vous faites partie du Centre national de la recherche scientifique.
C'est ça, oui.
C'est sérieux.
Mais là, oui, c'est très...
Mais vous êtes sans doute maintenant et seulement écrivain. Enfin,
maintenant,
j'en ai l'impression.
Oui, bien sûr, oui. D'ailleurs, maintenant, je vais essayer d'être seulement écrivain, de gagner ma vie avec des
scénarios. On peut être écrivain seulement et on peut gagner sa vie avec ce métier.
Je commence à en entrevoir la possibilité. Je ne sais pas si ça marchera, mais enfin, je sais que pendant les 18 ans qui viennent de s'écouler, ce n'était pas possible. Enfin, les choses datent de 65. Enfin, personnellement, pour moi, je les ai écrits en 62, 63. Et c'est un livre qui a eu un très grand
succès
critique et de lecture.
À
cause du prix Renaudot. Non, avant, c'est un livre déjà qui avait beaucoup étonné les gens, mais même sans prix, c'est un livre qui ne serait pas passé inaperçu. Mais à cause du prix, il y a eu ce phénomène d'amplification. Et ça m'a permis d'acheter un appartement.
Ça vous a permis de vivre, d'espérer, et d'attendre un autre prix.
Oui, si on veut. Ça m'a surtout permis ça m'a terriblement donné confiance, parce que c'était mon quatrième livre, les trois premiers qui faisaient partie de mon apprentissage d'écrivain. J'ai commencé à écrire quand j'avais 17 ans, et j'ai publié mon premier livre 13 ans après. Et les trois premiers que j'ai écrits, enfin tous les étaient des... Le premier, j'ai même pas osé le montrer. Enfin, je l'ai montré à un ami qui m'a conseillé de ne pas le soumettre à un éditeur.
Et il a été publié, non ?
Non.
Il est dans un casier ?
Il est perdu dans des conditions tout à fait curieuses. Un jour, j'ai classé tous mes papiers avant un déménagement. Et j'ai mis dans une valise tous les papiers que je voulais jeter. Et dans une autre valise, tous les vieux manuscrits que je voulais conserver. Et j'ai jeté la valise avec les manuscrits.
C'est un désespoir ?
Non, c'est un... C'était très curieux. Enfin,
c'était un signe. Il ne fallait pas.
Enfin, il y a un des livres que je regrette. Peut-être que je réussirai à retrouver, parce que j'avais tapé en quatre exemplaires. Peut-être que je réussirai à retrouver un jour. C'est un roman qui s'appelle Le Condottiere, qui est qui parle d'un tableau. Enfin, le tableau d'Antonello de Messine, Portrait du Condottiere, qui se trouve au Louvre. C'est une histoire de faussaire. Enfin, c'est d'ailleurs, le personnage du livre s'appelle Gaspard Winkler, comme le. Et ça, c'est un livre que j'ai l'intention de reprendre peut-être dans...
Mais Georges Perec, vous l'avez dit, vous ne passez pas inaperçu, ou plutôt, le livre n'est pas passé inaperçu. J'ai l'impression que vous ne passez pas inaperçu. Et que d'une certaine manière, c'est voulu. Vous êtes inventé pour étonner.
Je sais pas, c'est pas... Peut-être à cause de ma chevelure, enfin, ou à cause de ma barbe.
Mais déjà, vous avez un physique, hein.
Oui, enfin... Je mène une vie, je crois... Pas du tout.
Je dis le physique, les cheveux vraiment qui partent de tous les côtés,
oui,
la barbe qui est construite d'une certaine manière, pas totale, mais simplement au bout.
Un bouc, enfin, c'est un,
oui, c'est un bouc.
C'est un bouc qui grandit, qui diminue selon les... selon...
Alors justement, Georges Perec, il y a eu les choses en 1965 et vous avez obtenu le prix Renaudot. Et maintenant, il y a un nouveau livre, un roman, enfin qui contient tous les romans, La vie, mode d'emploi. Et nous sommes à la veille des prix littéraires. Et déjà, on a parlé un tout petit peu, même beaucoup de vous. Alors ça n'est pas une inquiétude et ça n'est pas ennuyeux que l'on puisse parler comme ça, ben, avant que les choses se fassent.
Les choses, comme vous dites si bien, les choses ont eu un prix littéraire qui est un prix très, un des quatre prix les plus importants décernés, ou les cinq décernés chaque année. De toute façon, j'ai très confiance dans ce livre. Enfin, c'est un livre dans lequel j'ai essayé de rassembler à peu près tout ce qui pour moi correspond à ce qu'on appelle le romanesque, à ce qui est le plaisir de raconter des histoires, de donner à lire des histoires.
Et puis c'est un travail.
C'est un travail.
Et c'est vrai, c'est travail de... 10 années de travail, il y a comme une concordance, parce que Radioscopie commençait il y a 10 ans, et vous avez commencé ce livre à peu près aux environs de septembre 68. Ce sont véritablement 10 années de travail.
Non, j'ai commencé je crois que ça doit être avril 69. Je pense que c'est ce jour-là, j'ai acheté un puzzle.
Oui.
Qui représentait un très grand pull en bois. Je ne savais pas ce qu'il représentait. Il y avait une petite étiquette, c'était marqué Port de La Rochelle. Et c'était une photo assez laide, d'ailleurs, de sport qui, lui, est très beau. Il y avait un grand bout de ciel bleu. Il y avait plein de petits des bateaux avec des mâts. Et les pièces étaient découpées, pour vous donner une idée, étaient découpées dans ce qu'on appelle à la couleur, une technique particulière de puzzle. Et c'est-à-dire que, par exemple, un mât, c'était une vingtaine de minuscules filaments, comme ça, comme des tout petits bouts de bambou, qu'il fallait monter, comme ça.
Un jeu de patience.
Mais absolument, on était plusieurs à faire ce puzzle, mais on a passé 3 ou 4 mois dessus. Et en l'achetant, j'ai inventé, comme ça, dans ma tête, j'étais avec un de mes amis, poète, qui s'appelle Jacques Roubaud. Et j'ai inventé une espèce d'histoire de quelqu'un qui passerait sa vie à faire des puzzles. Puis après, pour que l'histoire soit plus entourée, plus globale, non seulement il ferait les puzzles, mais avant, il aurait peint les aquarelles. Ensuite, il aurait demandé à un artisan de les découper en puzzles. Ensuite, il reconstituerait les puzzles. Ensuite, quand les puzzles seraient reconstitués, il les recollerait de manière à ce que les découpes disparaissent, selon un procédé très compliqué. Ensuite, il les détacherait du support de bois, il retrouverait l'aquarelle intacte qu'il avait peint 20 ans avant, et il la détruirait. Ainsi, parti de rien du tout, il arriverait à rien du tout, mais après un chemin qui aurait occupé toute sa vie. Il fallait que ce personnage soit immensément riche pour se permettre ça, et immensément désespéré, disons.
Et vous l'avez inventé, ce personnage?
Alors, immensément riche, ça m'a donné un homme qui venait d'un personnage de Valérie Larbaud qui s'appelle Barnabous. Et immensément désespéré, refusant la vie, ça m'a donné un personnage qui venait de Melville qui s'appelle Bartleby. Et Barnabous plus Bartleby ont donné Bartlebous.
Un personnage.
Qui était ce personnage.
Pas d'enfance, Georges Perec, pas de maison parce que... Votre père, vous l'avez perdu, vous étiez très jeune, vous êtes né en 36, votre père est mort en 40, vous aviez 4 ans, votre père est mort presque au moment de l'armistice, votre mère est partie pour Auschwitz et elle n'est pas revenue, et en 45, vous aviez 9 ans et vous vouliez exister. C'est bien cela?
J'existais déjà, mais je veux dire, c'était une vie sans attache, sans
racine.
Sans racine. Et il n'y avait pas de point d'ancrage. Il n'y avait pas de choses qui m'attachaient. Enfin, je sais que le genre de choses auxquelles Je rêvais, c'était de faire mes devoirs à une table familiale avec une toile cirée, avec le père, la mère et la lampe.
Avec la cafetière.
Avec la cafetière.
Qui fume.
Qui fume. Et j'ai été adopté par la sœur de mon père. Et j'ai mis. J'ai mis longtemps à accepter cette. Cette situation, enfin, cette. D'une certaine manière,
cette solitude.
Je ne sais pas.
Vous étiez seul ou pas ?
Non, j'avais une sœur, enfin, presque une sœur, j'avais une cousine. Enfin, ma tante avait deux filles, et dont une a vécu assez peu à Paris, mais l'autre était à quelques années de plus que moi et m'a énormément. Enfin, je me sentais extrêmement proche d'elle, et ensuite je me suis senti extrêmement proche de ma tante aussi. Mais il fallait que je me construise, disons,
un monde.
Ouais. Une maison, enfin, quelque chose qui me rattache à ma propre histoire.
Et elle vous manque aujourd'hui, cette enfance ? Cette enfance que vous n'avez pas eue ?
Non, je crois pas. Plus maintenant, enfin, je veux dire, il y a eu d'une certaine manière, un combat, je veux dire, qui s'est traduit par un livre, pour moi, très important, qui est une autobiographie, à la fois une autobiographie et une fiction, qui est W, ou Le souvenir d'enfance, que j'ai publié il y a 3 ans, et qui est la recherche l'enquête sur cette existence, sur cette enfance, ces attaches dont j'ai été privé, et d'une certaine manière, c'est la recherche de ces parents qui étaient morts, mais dont je n'avais même pas. Le problème, d'une certaine manière, c'était de retrouver la douleur que j'aurais eue, qui m'avait été dérobée, parce que finalement, quand mon père est mort, j'étais trop petit pour m'en rendre compte. Quand ma mère est morte, je ne l'ai pas su. C'était en 43, j'étais dans les Alpes. Mmh. Et il a fallu que je les enterre, d'une certaine manière, que je les...
Et après ?
Après, mais après, je me suis, disons, retrouvé avec
ce vide.
Oui, mais quelque chose que j'ai appelé ensuite dans un recueil de poèmes que j'ai appelé la clôture. Ouais. C'était la clôture est un ensemble de poèmes et de photographies sur la rue où je suis pratiquement né, dans le 19e arrondissement à Paris, la rue Villain, qui est une rue qui est en train d'être détruite. Et depuis des années, c'est une rue avec des façades aveugles, avec les fenêtres ont été bouchées. Et j'ai fait une série de textes sur cet enterrement du passé. C'est-à-dire pour vivre dans ce pays, chez moi, dans ma maison.
Vous avez une maison aujourd'hui ?
Maintenant, j'ai un appartement à Paris avec un petit jardin.
Mais c'est terrible ce que l'on vous a fait, enfin, ce qui vous a été fait, et personne n'est responsable, ou alors il faudrait rendre responsables tous les hommes. On ne vous a pas donné une enfance, on ne vous a même pas donné les malheurs.
C'est surtout ça qu'on ne m'a pas donné. Surtout. C'était, on m'a donné une vie en ballottée d'un endroit à l'autre. J'allais dans une pension, puis dans une autre pension.
Chez une tante.
Chez une tante, on me disait c'est ta tante, puis chez une autre tante. Et puis, et où j'étais dans tout ça ? Et qui étaient les gens ? Où étaient les relations ? Elles sont venues bien après. Elles sont venues quand ma tante est morte, celle qui m'avait élevé. J'ai vraiment été... malheureux. Enfin, je veux dire, je sais pas que c'est difficile à dire. Il y a quelque chose qui, à ce moment-là, il y a eu un. C'est un deuil que j'ai porté. C'est quelque chose Et puis bon, on porte le deuil, et puis on, à travers ce deuil, à travers cette mort, il y a quelque chose qui appartient à votre vie.
Et alors, si on résume un peu, Georges Perec, on s'aperçoit que vous avez été orphelin, et que vous serez orphelin pour toute votre vie, que vous avez fréquenté la rue comme un fugueur à un certain moment parce que vous vouliez quand même y reconnaître votre territoire. J'ajoute que vous êtes allé à un certain moment, vous aviez 16 ans, en Israël, dans un kibboutz, peut-être pensant y rester, mais vous avez vite compris qu'il fallait revenir en France parce que c'était votre parole et c'était votre écriture. Et je me demande si aujourd'hui, vous avez gommé tout cela. Il ne faut pas le gommer, mais je veux dire, si vous avez à votre tour installé votre maison, vous êtes marié, vous avez des enfants.
Je n'ai pas d'enfants, mais j'ai... je suis marié, je suis... En fait, je suis séparé de ma femme, mais je vis avec une compagne. Enfin, qui...
Non, mais vous avez un foyer.
J'ai un foyer, j'ai un chat. que... J'ai des livres, j'ai des fleurs, j'ai des objets que j'aime. J'ai un travail qui me passionne, qui m'absorbe complètement, qui me...
Et qui est l'écriture, le seul travail, c'est l'écriture.
Oui, je suis très heureux quand j'écris.
Mais vous êtes allé quand même de déception en déception, parce que j'imagine qu'à un certain moment, vous avez cru trouver en Israël ce que vous souhaitiez, et vous ne l'avez pas trouvé.
Je ne sais pas très bien comment je le cherchais. Je veux dire, je crois que c'était surtout une idée de du frère de mon père, de mon oncle, qui était installé en Israël, et qui pensait que c'était le lieu idéal où je retrouverais ses racines. Et en fait, je me suis senti très dépaysé en Israël. C'est pas à cause de la vie dans le kibboutz, qui est une vie... à l'époque, c'était en 52, l'État d'Israël était tout jeune. Et je veux dire, les idéaux socialistes d'Israël étaient encore fervents, je veux dire, surtout dans les kibboutz, surtout dans le kibboutz où j'étais. Mais c'était pas ma langue, c'était pas mon pays, c'était pas mon territoire, c'était pas ce que j'avais envie de faire, c'était pas... je veux dire, je sais pas si j'avais un idéal à l'époque. Enfin, je crois que je voulais être peintre, enfin, au début. Mais ensuite, je suis revenu en France, et c'est l'année d'après, je crois, vers 17 ans, que j'ai écrit mon premier texte.
Quels sont les livres qui comptent dans votre œuvre, les quatre livres qui vous conduisent aujourd'hui à publier La vie, mode d'emploi, qui est vraiment peut-être la somme de toutes les écritures. On se demande même si vous avez une nécessité d'écrire après ça, mais enfin, on en parlera tout à l'heure.
La vie, mode d'emploi, j'essaye de rassembler à peu près toute mon expérience d'écrivain et tout mon goût pour le romanesque. Je crois qu'il faut que je fasse une parenthèse. Ouais. Pour moi, écrire, enfin, un travail d'écrivain se situe en connexion directe avec les autres écrivains. On écrit tout seul, mais on écrit au milieu d'une myriade, enfin, d'une constellation d'autres écrivains. Les œuvres des autres sont comme des pièces d'un puzzle. Et au milieu de ce puzzle, il y a un trou, un vide, qui est précisément les livres, mes propres livres, qui sont nourris par tous les autres. Donc au départ, avant même de parler des quatre livres, disons, qui ont nourri celui-là, il y a les œuvres des autres, de Michel Léris, par exemple, de Raymond Queneau, de Raymond Roussel, de Jules Verne, de Rabelais, de Stern, et plein d'autres.
Très imprégné de tout ça.
De cette filiation, en tout cas, Jules Verne, Roussel, Léris.
Vous n'avez pas écrit avant de les avoir bien lus ?
C'est-à-dire que j'ai l'impression de continuer quelque chose qu'ils ont commencé à explorer, et ou Flaubert, pardon. Alors, chacun de ces auteurs, d'une certaine manière, a nourri un livre. Par exemple, les choses sont extrêmement nourries de Flaubert, avec des citations de Flaubert dedans.
Éducation sentimentale.
Éducation sentimentale. C'est pas histoire, c'est histoire de... Je voulais l'appeler histoire d'un jeune homme. Comme l'éducation sentimentale, c'est histoire d'un jeune homme. Je voulais appeler les choses histoire d'un couple. Un homme qui dort, c'est très imprégné de Kafka, du journal de Kafka, et de nouvelles de Melville, qui est Bartleby l'écrivain. Et La disparition, ce livre dans lequel il n'y a pas la lettre E, s'est inspiré directement par les travaux de l'ouvrage de littérature potentielle, c'est-à-dire par Queneau.
Par Queneau,
et
oui.
Derrière Queneau, par Roussel. Et ce sont, avec W, ce sont les quatre livres...
W qui est l'enfance.
W qui est l'autobiographie, ça faisait des années. Que je conçois mon travail d'écrivain comme un travail sur la langue. Je voudrais écrire toutes les sortes de livres possibles. Je ne voudrais jamais écrire deux fois le même livre. Je voulais écrire des livres courts, j'ai voulu écrire un livre très gros, je voudrais écrire un livre autobiographique, un roman policier, un roman de science-fiction, des pièces de théâtre.
Vouloir tout faire.
Dans le domaine de l'écriture.
Et ça n'est pas de la vanité, c'est simplement explorer tous les arts.
C'est explorer, pas tous les arts, tous les...
Mais les arts d'écriture.
Tous les arts d'écriture.
Par exemple, La disparition. Dans ce livre, vous évitez la lettre E.
Oui.
Quand même être un peu maso, non?
C'est un... Il y a...
Tous les mots, presque tous les mots comportent la lettre E.
Oui, enfin, mais oui.
Je me suis abusé tout à l'heure à faire une phrase comme ça. Oui. Et après, j'ai compté les mots où il y avait un E.
Oui.
Ouh là là, comment aurais-je pu faire la phrase d'une manière différente? Il fallait travailler. Donc c'est un travail.
Ah, c'est un travail. C'est un travail. On commence par faire un dictionnaire en prenant tous les verbes comme parcourir, courir, mourir, pas sourire, parce qu'il y a un E, mais il sourit. Après, on s'aperçoit que nous n'irons plus au bois, il n'y a pas de E dedans.
Ouais.
Et puis ensuite, au début, c'est ça.
Les lauriers sont coupés, c'est fichu.
Ah non, ça c'est fichu. Ouais. On s'aperçoit que ça a l'air impossible.
Ouais.
Et puis ensuite, ça devient grisant, mais vraiment grisant.
Et puis on prend une distance aussi, avec les mots.
Oui, et puis toute l'histoire se raconte, je veux dire, d'une certaine manière d'elle-même.
Mm.
Et ça, c'est un livre que j'ai écrit extrêmement vite, en un an. Et c'est là une des fois où j'ai découvert le plaisir de raconter des histoires, qui est quelque chose qui était assez occulté dans la littérature contemporaine. Je veux dire, le goût presque du roman populaire, de la péripétie, du cap et d'épée, les meurtres, les assassinats, les viols, les sagas familiales, enfin tout ça, c'était un peu tout ce qu'il y a dans Dumas, dans Jules Verne, dans...
Dostoïevski aussi.
Oui, d'une certaine manière. Et pour moi, c'était vraiment le romanesque. Alors, dans La disparition, c'était un romanesque expérimental, puisque ça partait de ce postulat qui était un peu... lourd, je veux dire. Alors, c'est-à-dire que en fait, c'était trop, d'une certaine manière, trop visible, même si des gens pouvaient lire La disparition sans s'apercevoir qu'il n'y avait pas de E. Le procédé était affiché une fois pour toutes.
Donc, Georges Perec, vous avez très bien su, tout au long de votre travail d'écrivain, c'est-à-dire depuis un certain nombre d'années, depuis combien on pourrait dire depuis
20 ans.
Depuis 20 ans, vous avez très bien su ce que vous deviez faire. C'est presque un plan construit. Ah, si, quand même, parce qu'il y a eu également espèce d'espace. Et dans espèce d'espace, vous dessinez un espace poétique.
Oui, mais je.
Et on en arrive à la vie mode d'emploi, parce que je regardais un peu que signifie être chez soi, que signifie habiter chez soi, que signifie rencontrer quelqu'un, que signifie apprivoiser son appartement, les mots que l'on emploie aujourd'hui.
Oui.
Et on arrive justement à ce livre d'aujourd'hui, La vie mode d'emploi, qui est, comme je le rappelais tout à l'heure, ce dessin en coupe d'un immeuble où l'on regarde tous les gens vivre. Donc c'est un aboutissement quand même.
C'est un aboutissement, comment on peut dire, partiel. Je veux dire, c'est pas la somme, enfin c'est quelque chose qui est tout ce que j'ai écrit. Je veux dire, quand j'ai écrit les choses, j'avais pas encore tous ces projets. Ils sont venus à peu près au moment de la disparition, c'est-à-dire vers 70. À ce moment-là, mon projet d'écriture s'est ouvert et j'ai entrepris des livres, en particulier La vie mode d'emploi, en sachant qu'il me faudrait à peu près 10 ans pour y aboutir.
C'était un rêve, parce qu'également, nous n'avons pas parlé du rêve, et il a une importance dans votre œuvre, parce qu'il y a la boutique obscure. Oui. De temps en temps, vous tenez boutique, mais lorsque vous tenez boutique, c'est la boutique des rêves.
Oui.
Et vous dites que vous rêvez pour écrire.
Oui, c'est pas exactement ça. C'est-à-dire qu'au début, j'ai commencé par noter mes rêves, parce qu'il y avait tout un travail du rêve qui était... J'étais un grand rêveur, disons. Un grand dormeur et un grand rêveur. Et ensuite, au fur et à mesure, quand j'ai décidé de rassembler ces rêves, je voulais faire ce que j'appelais une autobiographie nocturne. Une autobiographie, c'est pas seulement raconter ce qu'on fait dans la journée, ça peut très bien être raconter ce qui se passe pendant la nuit, raconter cette espèce de choses qui arrivent. Enfin, il y a toute une tradition littéraire et qui remonte aux Arabes, enfin, et puis et au romantique allemand et au surréaliste. Et ce qui s'est passé surtout, c'est qu'au fur et à mesure que je décidais de rédiger ces rêves, de les noter, je me rendais compte qu'il y avait en fait, les rêves devenaient du matériel d'écriture et que je travaillais la nuit, disons, je travaillais dans mon sommeil pour faire des textes. Et c'était à la fois, disons, intéressant, mais un peu frustrant. C'est-à-dire, c'était plus des rêves. Je ne sais pas dans quelle mesure on peut dire qu'un rêve est authentique ou pas authentique, mais c'était des rêves un peu littéraires. Je me forçais un peu à rêver. Il venait tout écrit dans mon sommeil. Mais c'était quand même. Il y avait quand même un travail d'exploration. Enfin, un de ces. C'est pour moi, c'est un livre. Un peu en porte-à-faux, qui raconte quelque chose qui en fait se situe en dehors du livre.
Vous parlez de la boutique obscure.
La boutique obscure, oui. C'est en fait, c'est quand même un travail que je revendique, disons.
Quels sont, Georges Perec, les livres que vous avez lus et qui viennent en librairie en même temps que le vôtre
ces derniers jours.
Oui, ces derniers jours. D'abord, vous lisez?
Je lis très peu. Je lis très peu.
Pourquoi? Pour ne pas être influencé?
Pour
ne pas avoir de mauvaises pensées?
Non, je lis peu parce que je passe mon temps à relire. Je passe mon temps à relire Jules Verne, Kafka, ou Roussel, ou Queneau. Et là, pendant ces trois dernières années, lorsque j'ai rédigé La vie mode d'emploi, j'ai énormément travaillé sur un certain nombre d'auteurs et j'ai lu très peu de nouveaux livres. Et ce travail s'est terminé il y a assez peu de temps, enfin, puisque il a fallu corriger les épreuves, c'était très très compliqué.
Parce vous n'avez été occupé que de vous-même.
Ben oui. Ça c'est, y a quelque chose qui est de... Je lis surtout par accès. Je veux dire, il y a des moments où j'ai des espèces de fièvre de lecture. Et alors les livres s'entassent. Il y a des livres que... Puis je fais très longtemps le tour d'un livre avant de rentrer dedans.
Mais pour qui écrivez-vous? Bon, les choses avec le prix Renaudot vous ont donné un vrai public. Je ne sais pas si les livres, les autres qui sont venus après, ont été pareillement accompagnés. Vous avez envie d'avoir le plus grand public possible? Ou bien vous voulez parler à quelques initiés, vous voulez rester un marginal?
Non, je ne sais pas si on veut rester un marginal.
Non, enfin, je ne pense pas, personne.
Je ne pense pas avoir une situation tellement marginale dans la littérature, sauf que je ne fais pas partie d'une école constituée comme...
Non, vous êtes en liberté.
Ah oui, ça, je suis vraiment... Il y a peu de... Il y a beaucoup d'écrivains contemporains que j'aime beaucoup. Je me sens beaucoup d'affinité, par exemple, avec Michel Butor. Je m'en sens énormément avec un écrivain du chemin qui s'appelle Michel Sailloux, dont je trouve que c'est ce qu'il fait me fascine, enfin, parce que c'est des choses que je n'arriverai pas du tout à faire. Enfin, là, je vous donne deux exemples. Enfin, ça, c'est... Mais je n'appartiens pas à quelque chose de constitué, même sur un plan journalistique, ou même avec une revue théorique comme telle quelle, ou Change, ou même si j'ai des affinités avec certains ou certains. Dans ce...
Mais vous n'êtes pas inquiet devant les réactions que provoque ce livre, parce que j'ai lu un certain nombre de critiques. On vous dresse tellement de statues, on vous installe tellement de lauriers au-dessus de la tête, on dit tellement qu'après ce livre, la vie mode d'emploi, on ne devrait pas écrire. Vous êtes persuadé de ce que vous pouvez avoir comme talent ?
Je pense que j'ai beaucoup travaillé et que j'ai... Il y a dans ce livre, pour moi, ce qui est le plus important, c'est que quelque chose que j'appelle la jubilation, qui est le plaisir de raconter des histoires. Et je pense que les lecteurs partagent ce plaisir un peu comme un enfant à qui sa maman vient raconter une histoire avant qu'il s'endorme. Donc on part de cet immeuble éventré. Et au départ, c'est des scènes statiques. Enfin, on décrit comme si un peintre était... Comme si on était en train de décrire un tableau. Et ensuite, on s'en va extrêmement loin. On s'en va au fin fond de l'Australie. On s'en va en Amérique du Sud. On s'en va en Amérique du Nord. On s'en va en Afrique plusieurs fois. On fait on s'en va au XVIIIe siècle. On s'en va au XVIe siècle, à la découverte de l'Amérique. Enfin, et tout ça, c'est cette prolifération, cet entassement d'histoire. Pour moi, ça... Ça rassemble tout le...
C'est la jubilation.
C'est la jubilation. Ça.
Parce que, oui, la vie mode d'emploi, d'abord, c'est un titre un peu prétentieux, peut-être, au départ. Parce que, plus qu'énigmatique, ça veut dire la vie, mode d'emploi, roman, qui comprend tous les romans. Merci, quand même. Enfin, disons que le livre est un jeu de construction. Hein. Alors, vous imaginez, l'immeuble, vous le placez où, l'immeuble ?
C'est... dans un quartier que je connais
Place
très
Monceau,
peu. C'est Plaine-Monceau.
Plaine-Monceau, c'est à Paris.
Oui, j'étais à Paris. Oui. À Paris.
Alors, vous indiquez également des dates, parce qu'il faut savoir à quel moment l'immeuble a été construit.
Oui.
Hein. L'immeuble a donc été construit en 1885.
Hein. À peu près.
Ouais. 70, et puis... on regarde sa vie jusqu'à maintenant, jusqu'en 1975, à peu près, quoi.
Oui, et puis hein? Plus la destruction prévue vers 1990.
Alors, si on montrait la photo, d'ailleurs, le plan que vous avez l'astuce de montrer...
À la fin.
Dans le livre, à la fin, et le plan est important. Si nous avions la télévision, on pourrait montrer et on comprendrait tout de suite. Alors, disons qu'on regarde le dessin avec les yeux, parce qu'on peut le raconter aussi. Chaque appartement, donc, apparaît en coupe. Et alors, à ce moment-là... Vous montrez chaque appartement avec ses décors, avec ses habitants, les manies des habitants. Vous racontez la vie, vous racontez les ancêtres. Parce que à partir du moment, et c'est vrai, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que maintenant, c'est drôle ce qui me passe dans la tête, ce qui me trotte dans la tête, lorsque je regarde quelqu'un descendre de chez moi. Je regardais ce matin une jeune femme qui doit habiter au troisième, et je me disais, tiens, d'où vient-elle ? Est-elle née à Paris ? Si elle est née à Paris, où étaient nés ses parents ? Quels étaient ses ancêtres ? La famille remonte-t-elle loin ? Elle a l'air d'une bourgeoise bien installée, mais peut-être qu'il y a seulement 60-70 ans, son père était paysan ou son grand-père.
Oui, c'est vraisemblable.
Non, mais c'est vrai que... oui. On fait de... Mais c'est un travail d'explorateur, non ?
Ben, c'est un travail de... Il y a une très grande documentation rassemblée. Il y a un goût pour les dictionnaires et les encyclopédies. Il y a et puis il y a cette interrogation cette vie collective que l'on mène sans le savoir, et puis...
Que l'on ne mène pas, surtout.
Que l'on ne mène pas.
Parce que, prenons votre cas, Georges Perec, vous m'avez dit que vous avez un appartement.
Oui.
Vous êtes donc dans un immeuble.
Oui.
Bon. Dans votre livre, vous cassez les cloisons pour qu'on puisse voir ce qui se passe à côté. Vous connaissez vos voisins ?
Oui, un peu.
Oui, quand même.
Pas tous, mais il y en a quelques-uns que je connais.
Mais vous savez leur vie ? Vous savez la vie de vos personnages dans le roman ?
Non, pas à ce point-là, mais enfin, ça c'est... je sais un peu, je veux dire, j'ai quand même des... mais mon livre... il a l'air d'être réaliste comme ça, mais en fait, il décolle de la réalité.
Oui, bien sûr. De toute manière,
tout le temps.
Pour le raconter, il faut le lire. Parce que je crois qu'un livre, d'abord, doit être lu. Mais enfin, c'est quand même une ambition que je dirais, pas démesurée, mais forcenée. Parce que c'est un livre de 600 pages. Lorsque vous avez tout raconté, vous vous trouvez quand même obligé de faire encore des pages annexes. Pour bien expliquer ce que vous n'avez pas expliqué.
Ah, c'est pas tellement pour ça. C'est pour que le lecteur puisse jouer. Parce que vraiment, étant donné que, par exemple, il y a un personnage qui s'appelle Mademoiselle Crespi, elle a seulement un tout petit chapitre. Seulement, elle apparaît très, très fréquemment dans les autres. Oui. Et si on veut, on peut reconstituer complètement son histoire. C'est vraiment... les pièces annexes, ce sont en fait les pièces du puzzle. Ce sont les 5000 pièces du puzzle que j'ai assemblées pour raconter ces... Je veux dire, sous le livre tel qu'il est, il y a d'autres livres potentiels, disons, que le lecteur peut...
C'est l'auberge espagnole ?
C'est comme... on peut appeler ça l'auberge espagnole.
On pourrait penser, et peut-être les lecteurs le penseront-ils, que lorsqu'on a écrit un livre comme celui-là, on a une expérience d'homme assez extraordinaire. Alors, vous les connaissez bien, les hommes ? Vous connaissez bien la vie ?
Non, mais je connais bien mes personnages. Je crois que je les connais bien. Au bout d'un certain temps, j'étais extrêmement familiarisé avec eux. Enfin,
c'est un livre d'écrivain ou c'est un livre de sociologue ?
Oh, c'est un livre d'écrivain. Il n'y a pas de... Je n'ai jamais été sociologue, il n'y a pas de sociologie dans ça.
Mais qui a tenté quand même d'en savoir un peu plus.
Oui, mais je veux dire, c'est un livre de... Ça serait plutôt, je ne sais pas moi, de la recherche d'une certaine sympathie avec les autres, avec les... Essayer de rassembler ces histoires. Enfin, c'est tous ces personnages, d'ailleurs, ils se ressemblent un peu. Ils sont extrêmement passionnés. Enfin, ils font des choses, des tas de choses qui, un peu comme le personnage central.
C'est un livre de ville quand même.
Ah oui, que, oui, ça c'est un.
Je veux dire, ça n'existe pas à la campagne.
Mais ça, j'ai déjà...
À la campagne, on connaît les, pas toujours. On connaît les maisons qui sont autour de la maison.
Oui,
on connaît les autres. Parce que là, tous ceux qui nous écoutent en ce moment vont regarder les choses d'une autre manière à partir de tout à l'heure. C'est-à-dire, je suis persuadé qu'ils vont se regarder un peu mieux les uns les autres. Parce que c'est vrai, dans votre livre, ce sont des gens qui pourraient être nos voisins d'état, nos voisins de palier. Et nous connaissons et toutes leurs histoires et toutes leurs manies. Alors, par exemple, moi, j'ai noté quelques petites choses. Vos personnages, il y a... je vois maintenant la femme avare qui inscrit ses moindres dépenses dans un cahier. Je ne sais pas si je la reconnaîtrai quelque part. Il y a le petit garçon qui descend la poubelle et qui rêve à son roman. C'est peut-être vous, à un certain moment, qui descendiez la poubelle, j'en sais rien. Il y a la matteuse qui rêve de construire la plus haute tour du monde. C'est vrai qu'elle existe dans un immeuble. Il y a le russe qui fait tous les concours publiés dans les journaux. Et la légende de Toulouse qui habite dans des immeubles. Vous savez qu'à Toulouse, il y a un groupe de gens qui se réunissent très souvent. Ils font tous les concours qui paraissent dans tous les journaux. Ils gagnent le plus souvent, d'ailleurs. Il y a le chirurgien. Et puis, il y a également l'histoire du vieux bibliothécaire qui accumule les preuves qu'Hitler vit encore.
Oui,
c'est vrai que tous ces personnages existent dans chaque immeuble.
Mais
peut-être avec d'autres fantasmes et d'autres manies, d'autres habitudes et d'autres réalités. Comment le livre a-t-il été reçu par ceux qui l'ont lu ? Je ne parle pas des critiques, ça j'ai vu. Mais les gens que vous connaissez bien...
Oh, ils sont... Je veux dire, je crois qu'ils sont contents. Je crois qu'il y a quelque chose qui est... c'est un livre, c'est... Les premiers chapitres, sont un peu... C'est un peu lourd à démarrer, mais effectivement...
Ah, il faut le dire tout de suite. Il faut se donner le courage de passer les premières pages.
Il y a une sorte d'épreuve, enfin. Mais ça,
pourquoi ? Parce qu'il fallait subir l'épreuve ?
Non, mais
vous pensez qu'il faut subir une épreuve avant de rentrer dans le cœur d'un
livre ? C'est pas voulu. Je veux dire, il y a beaucoup de livres qui sont... je veux dire, par exemple, au-dessous du volcan, il y a ce premier chapitre qui rassemble tout le livre une première fois. Non, je crois que ce qui est difficile, c'est qu'au début, c'est un peu comme quand on commence un puzzle. Les premières pièces, on ne sait pas comment elles se mettent. Enfin, je veux dire, donc on commence, on rentre dans une histoire, on ne sait pas, on lit une histoire, puis une autre histoire qui est différente, puis une autre histoire qui est différente. On dit, mais où va-t-on ? Et c'est seulement à partir du sixième ou septième chapitre qu'on commence à voir comment ces histoires s'accrochent, comment les pièces se mettent les unes à côté des autres. Comment cette maison se construit. Et au fur et à mesure qu'on entre, c'est ce que m'ont dit les quelques personnes, au fur et à mesure qu'on entre dans le livre, je crois qu'on y est de mieux en mieux. Qu'on est... qu'on suit parfaitement le jeu, ce jeu de construction. Qui est...
Vous dites que vous cherchez en même temps l'éternel et l'éphémère, mais vous le trouvez au bout du livre.
C'est une phrase qui vient du livre que j'ai publié dans votre collection. C'est une phrase qui n'y a que la voyelle E. Je cherche en même temps l'éternel et l'éphémère. Et c'est, bon, c'est une sorte de devise. C'est-à-dire, ce que fait ce personnage central, ce que fait le peintre qui peint la maison, il essaye de fixer en un instant ce qui se passe, tout ce qui se passe, mettons, aux environs de 8 heures du soir, le 23 juin 1975, au moment où ce personnage central va mourir, tout ce que les autres étaient en train de faire. Il essaye de fixer cet instant d'éternité. Et derrière cette chose éphémère, qui d'ailleurs est la vie, il y a tout ce que les personnages ont vécu, ont embrassé, toute leur circulation, tout leur parcours, tout leur déboire, leur espoir, leur enthousiasme, leur vie.
Georges Perec, quelle est votre vraie ambition ?
De décrire.
Non, il y a autre chose encore.
Oh, je ne sais pas. Ma vraie ambition. Pour l'instant, elle se confond avec mes... C'est très... D'une certaine manière, mon ambition, c'est de remplir un tiroir de la Bibliothèque nationale.
À ce point-là ?
Oui.
C'est vrai ?
Oui.
Mais alors, c'est quoi, de la vanité ?
C'est... Une autre ambition serait d'utiliser tous les mots de la langue française.
Mais en prenant le dictionnaire ?
Prenons un dictionnaire en racontant...
Quel est le dictionnaire où il y a tous les mots de la langue française ?
Oh, il y en a plusieurs. Enfin, l'un de ceux qui est le plus curieux, c'est un dictionnaire qui n'existe plus maintenant. Il s'appelle le Becherel. C'était le dictionnaire favori de Roussel. Où il y a des... Becherel a essayé de rassembler tous les mots, même ceux qui n'avaient que... Qui n'apparaissait qu'une seule fois dans un texte. Et d'ailleurs, je peux vous raconter une anecdote parce que elle est très proche de ce que je veux faire un peu. J'ai un ami un écrivain américain qui s'appelle Harry Matthews que j'ai traduit. Et dans chacun de ses livres, il met un mot qui n'existe pas. Il invente un mot, une fausse pierre précieuse, etc. Et pourquoi il l'invente ? Parce qu'il sait qu'il y a le grand dictionnaire d'Oxford recense tous les mots, même sinon qu'une seule apparition. Ainsi, il a créé un mot. Il a créé quelque chose de parfaitement inutile, qui ne réapparaîtra jamais, mais qui aura sa référence dans un dictionnaire. Et ça, c'est quelque chose qui est, la vie, c'est la vie, mais c'est une espèce d'ambition, peut-être démesurée, vous savez comment c'est Balzac qui disait « je veux faire concurrence à l'état civil », moi, je veux me mesurer avec les dictionnaires et les encyclopédies.
Donc, vous avez encore toute une vie pour écrire.
Je pense. J'ai 25 projets à peu près actuellement qui vont se développer, certains vont tomber, d'autres vont se transformer complètement, ne ressembleront pas du tout à ce que je pensais ce que je pense actuellement que ça pourrait être. Et puis,
c'est le puzzle qui s'écroule encore.
C'est les pièces du puzzle qu'on recommence. Et on ne recommence jamais le même puzzle.
Et Georges Perec, lui, le personnage, l'être humain, c'est aussi un puzzle ?
Ça, je ne peux pas... Ça, je ne sais pas comment vous répondre. C'est...
Il y a des petites pièces partout.
Il y a des petites pièces partout. Il y a il y a des mots croisés d'un côté. Il y a il y a une sorte de versatilité, je pense.
Une boulimie.
Ah oui, il y a une boulimie, une fringale de mots et de... Pourquoi, je veux dire, c'est une sorte de... Il y a un plaisir de l'accumulation aussi, d'entasser les mots.
Et puis une envie de vivre maintenant. Et tout à l'heure, lorsque je vous disais l'ambition, vous m'avez répondu plus joliment que ce que j'espérais. Mais il y a aussi l'ambition aujourd'hui peut-être d'être un enfant.
Oh, mais ça, je ne sais pas. Souvent, on me dit que je suis un enfant. À d'autres moments, on dit que je suis un diable. Enfin, mais peut-être c'est la même chose.
Enfin, vous avez l'allure d'un diable physique. Ça vous fait de la peine ?
Non, non, je trouve ça plutôt sympathique, disons.
Et puis il y a cette phrase que vous mentionnez, que vous inscrivez au commencement de votre livre, elle est de Jules Verne, Michel Strogoff, regarde de tous tes yeux, regarde. Je crois que c'est le sens d'une vie, non ?
C'est ça.
Alors que pensez-vous de tous ces gens-là qui traversent une vie sans regarder ?
Ben, je les plains, disons.
Non, mais je les... peut-être non, on ne leur a pas dit ou...
Je sais pas, c'est les gens n'ont. Il y a quelque chose qui est effectivement cette sorte de cécité devant le quotidien. Ça, c'était. Je crois que c'est, ça m'avait beaucoup frappé quand je parlais de. Quand j'écrivais Espèce d'espace, ce fait que les gens ne. Ne sont plus attentifs à ce qui a l'air, à ce qui est leur propre existence, leur propre, ce qui fait leur temps, ce qu'on appelle le bruit de fond de la vie.
Et vous pensez que c'est de l'indifférence ?
C'est de l'anesthésie.
Ou de l'ignorance ?
C'est de l'anesthésie.
Anesthésie.
Et si vous voulez, quand un métro circule, les gens sont dans le métro, ne se regardent pas, ne se parlent pas, sont des espèces de petites entités presque hostiles. Et si le métro s'arrête, s'il y a un incident, quelque chose qui déchire le quotidien, à ce moment-là, les gens vont commencer à se parler. Mais le reste du temps, on ne fait pas attention. La plupart des gestes, on les fait d'une manière machinale. La plupart des... C'est-à-dire, on rentre dans un café, on dit un express. Bon, ça, c'est... On ne reconnaît pas les gens. C'est-à-dire, pour que les gens se parlent, ça, c'est une des expériences les plus étonnantes, que le lendemain du jour où les astronautes... Astronautes sont arrivés sur la Lune, dans les cafés, les gens se parlaient le lendemain matin. Quelque chose était arrivé, un des plus vieux rêves de l'humanité s'était réalisé, et les gens éprouvaient le besoin de se parler. Sinon, le matin, dans les cafés, les gens boivent leur café crème, avec leur croissant, et ne se parlent pas, même s'ils se connaissent.
Mais Georges Perec, si vous allez dans un café, si vous vous installez au comptoir, vous parlez aux gens qui sont près de vous ?
Ça dépend. Enfin,
vous le souhaiteriez ?
Parfois, oui. Parfois. Je veux dire, il y a quelque chose qui est...
Mais il y a une timidité qui fait que vous ne leur adressez pas la parole. Alors les autres agissent peut-être de la même manière.
Oui, mais c'est... Il y a des cafés dont je suis un habitué, oui. Si on veut. Enfin, je connais le patron, je connais deux ou trois des clients qui y vont. Et donc, c'est le modèle du café que je décris dans le livre. Et là, je veux dire, aller au café à ce moment-là, même pour boire un express, c'est un geste social, je veux dire. Mais la plupart du temps, on n'est pas, c'est ce qu'on appelait la foule solitaire, vous savez, ça, c'est cet essai du sociologue américain. Enfin, je veux dire, les hommes perdus dans la ville, enfin, qui ne sont plus. Attentifs ni à leurs propres gestes, ni aux gestes des autres. Qui sont...
Georges Perec, vous avez engrangé, vous avez tout analysé, les sentiments, et les croyances, et les caractères, et les situations. Vous êtes-vous posé la question, que représente ma culture ?
Non, je ne me suis pas posé la question comme ça.
Vous l'êtes posé comment ?
Je ne sais pas comment je me la suis posée. Ce travail d'engrangement, c'était essayer de dire quelque chose à propos de tout ce que je pouvais connaître, de tout ce qui m'avait intrigué dans la vie. Pour vous donner un exemple, quand on regarde une carte de géographie, on ne s'étonne jamais que le nord soit en haut. Et on pense que c'est naturel, que le nord c'est en haut. Au moment où on a commencé la cartographie, particulier au Moyen-Âge, la représentation des cartes n'était pas du tout comme elle est maintenant. Il y a eu toutes ces histoires de projections, Mercator et tout ça. Bon. Mais il y a eu des cartes tout à fait reconnaissables où le Nord était à gauche ou en bas ou à droite. Et j'ai fait l'expérience tout à fait extraordinaire. On décalque une carte d'Europe sur un papier calque. Et on la regarde et on voit, on reconnaît tout de suite l'Europe, l'Angleterre, la France avec son, le bec de la Bretagne, l'Espagne, la botte italienne. Et on tourne la carte comme ça. Et ben on ne voit plus. On voit une espèce de Danemark. Et ça, faites l'expérience, faites-le même avec une carte de France. Et vous allez avoir quelque chose qui va être... ce qui vous semble le plus naturel va d'un seul coup vous devenir étranger. Et c'est ça que je cherche à... Ce que j'ai essayé de rassembler, c'est ça. C'est cette espèce de, d'interrogation sur... C'est un peu comme un enfant, bon, pour, si on veut, qui, quand on lui donne un réveil, il démonte le réveil pour voir comment ça fonctionne.
Alors, on peut dire qu'en ce moment, vous êtes en chemin.
En chemin.
Enfin, vous allez quelque part.
Oh, oui, mais ça, c'est... Où vais-je ?
Non, parce qu'il y a déjà... une belle ouverture de la route. Vous avez déjà beaucoup marché parce que le fils d'ouvrier tourneur, l'ouvrier tourneur, votre père qui est mort en 40, le fils de la jeune femme qui est partie pour Auschwitz et qui n'est pas revenue, se procure maintenant, ou plutôt sait maintenant se procurer les choses qui ont un prix dans la vie.
Oui, mais... Oui... Simplement, il faut, bon, je veux dire...
Plutôt c'est... les choses qui donnent du prix à la vie.
Effectivement, je suis sur une... Je suis lancé dans ce... Dans...
Vous en êtes plus heureux ? Bon, il y a eu le prix Renaudot avec les choses en 65. Il y a eu des livres qui ont été magnifiquement accueillis. Mmh. Il y a ce dernier roman. Vous souhaiteriez avoir un prix à la fin de l'année ?
Oui, bien sûr. Un écrivain ne peut pas ne pas souhaiter avoir un prix. Même si le système des prix...
Ça, c'est autre chose.
C'est autre chose. Mais ce que je souhaite, c'est que... pouvoir vivre du fait d'écrire, pouvoir vivre de mon travail d'écrivain, c'est un travail. C'est un travail que je fais avec plaisir. Je pense que il y a des gens qui attendent ce que j'écris. Et j'ai été assez déprimé, je veux dire, d'avoir à payer cette activité d'écriture par un travail que je faisais, même si ce travail était intéressant.
Enfin, vous avez toutes les choses maintenant.
Maintenant,
vous pouvez du moins les acheter.
Oh non, je n'ai pas de maison de campagne, je n'ai pas de voiture, je n'ai pas de...
Mais parce que vous ne le voulez pas.
Oh non, parce que je ne pourrais pas les avoir. Mais... peut-être je pourrais éventuellement dans quelques années, enfin je ne me rends pas compte, mais enfin, peut-être que j'en éprouverai pas le besoin, peut-être non, j'ai un lieu où vivre que j'aime beaucoup,
qui est à Paris,
j'ai des je suis bien chez moi, j'ai un très beau bureau dans lequel je travaille avec une bibliothèque et des livres et les auteurs que j'aime. Et je peux travailler 10 heures par jour et j'aime ça. Et écrire des pages et des pages. Et...
Donc Georges Perec, cette fois-ci, a des racines.
Oui.
Merci Georges Perec.